Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été. On est ensemble jusqu'à 19h. À force de présenter l'Europe comme bouc émissaire systématique, les responsables nationaux ont instillé le virus de la défiance. Il faut mettre fin à cette épidémie en assumant nos politiques nationales et en régénérant l'idéal européen. Voilà ce qu'on pouvait lire il y a quelques mois à la rubrique Europe du programme du candidat Emmanuel Macron. Faire confiance à l'Union plutôt que la rendre responsable de tous nos maux, un message qui allait plutôt à rebours de l'opinion française, volontiers anti-européenne, surtout en période électorale. Ce fut donc un ouf de soulagement poussé par nos voisins en mai dernier après la victoire de celui qui se présentait comme le plus européiste des candidats. Pourtant, trois mois plus tard, le doute commence à s'installer. Que ce soit sur la politique migratoire, industrielle ou encore sur la diplomatie, la France multiplie les initiatives individuelles, quitte à froisser ses partenaires. La querelle avec l'Italie autour du contrôle des chantiers navals de Saint-Nazaire l'illustre bien. La France, pour le moment, privilégie ses intérêts sur la coopération. Alors, s'agit-il d'établir un rapport de force avant de se montrer plus conciliant? Emmanuel Macron a-t-il vraiment un projet pour l'Europe? Eh bien, c'est la discussion que nous aurons ce soir jusqu'à 19h avec quatre invités. Thomaïs Papayohannou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes correspondante de la télévision publique grecque et chypriote à Paris. À vos côtés en studio, Stéphane De Vries, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vous journaliste basé à Paris. Vous travaillez pour plusieurs médias internationaux, dont France 24, RTL News et CNN, et de nationalité néerlandaise. Et puis nos deux autres invités sont à distance. Alors au téléphone, nous sommes avec Ulrike Guéraud depuis l'Allemagne. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de politique européenne à l'université du Danube en Autriche et directrice du think tank European Democracy Lab. Et puis dernière invitée, lui se trouve en duplex depuis les studios de France Bleu Provence à Aix-en-Provence. Il s'agit d'Alberto Toscano. Bonsoir.
Buonasera.
Buonasera. Vous êtes vous écrivain et correspondant de la radio italienne Radicale, c'est ainsi qu'on prononce ?
Parfaitement.
Alors Stéphane De Vries, première question avec vous. Est-ce que vous faites partie aujourd'hui de ceux qui se disent, on va dire, déjà déçus par la mise en œuvre des convictions européennes d'Emmanuel Macron, ou est-ce que vous accordez peut-être encore un état de grâce à sa politique européenne ?
Ça fait trop longtemps que je couvre la politique française pour être déçu par un quelconque politique. Je n'ai plus aucune attente
de vous n'aviez
de qui
pas
que ce soit. Donc non, je dirais pas déçu, mais disons que ce que la marchandise ne correspond pas à la publicité qu'on avait eue avant, enfin pendant l'élection présidentielle. Je pense que le président qui est aujourd'hui Emmanuel Macron est vraiment un autre homme que le candidat Emmanuel Macron, en tout cas en ce qui concerne l'Europe.
Donc vous confirmez qu'il y avait quand même une promesse faite?
Il y avait une énorme promesse et aussi une énorme attente, je pense un peu irréaliste, parce que on en voit un peu la même chose qu'on avait vu avec l'élection de Barack Obama en 2008. Tout le monde avait vraiment mis plein d'attentes, il a fait presque le sort du monde entier sur ses épaules. C'était complètement irréaliste aussi, parce que on ne peut pas attendre beaucoup de choses d'un seul homme, de changer le monde entier, mais en Europe, on était tellement désemparés par la menace du populisme, des populismes, qu'on pensait que peut-être Emmanuel Macron allait sauver l'Europe. Et bien sûr, c'était une attente complètement farfelue.
Alors Alberto Toscano, on l'a dit, entre la France et l'Italie, le torchon brûle depuis plusieurs semaines. On va y revenir, mais au-delà vraiment des tensions avec l'Italie, est-ce que vous avez, vous aussi, l'impression que Macron n'est pas l'européiste convaincu qu'il prétendait être ?
Mais le problème est que Emmanuel Macron a été accueilli avec enthousiasme par l'Europe tout entière, par les européistes en général, parce que il a gagné contre une rivale populiste, comme Stéphane De Vries vient de le dire, et contre une rivale visiblement anti-européenne. Donc, toute personne qui aurait gagné contre Marine Le Pen aurait été accueillie avec faveur par le reste de l'Europe. Dans le cas spécifique de l'Italie, Emmanuel Macron a provoqué beaucoup d'enthousiasme. Et enthousiasme pour ce discours européiste, et aussi parce qu'on pensait que la France d'Emmanuel Macron et l'Italie auraient pu faire cause commune pour rééquilibrer l'Europe, les équilibres européens, vis-à-vis d'une Allemagne très, très puissante. Par contre, Emmanuel Macron a choisi d'avoir une relation particulière, privilégiée, très constructive avec l'Allemagne, et il a quelque part relégué la relation avec l'Italie et l'Espagne à un rôle secondaire. Les Italiens ont pris acte de cette situation, surtout à travers deux cas qui les ont quelque part bouleversés et qui produisent beaucoup de critiques dans la péninsule. Le premier est la décision inconcevable du point de vue italien de nationaliser les chantiers navals de Saint-Nazaire pour empêcher une société italienne d'en prendre le contrôle. Et deuxième chose, le peu de collaboration que Emmanuel Macron a montré par rapport à l'Italie vis-à-vis du dossier de la Libye et vis-à-vis du dossier fondamental de l'immigration.
Alors, on va revenir sur ces deux dossiers pour finir le tour de table, Ulrike Guéraud. Vu d'Allemagne, comment sont perçus les premiers pas de Macron sur les dossiers européens ?
Oui, je pense que ça dépend beaucoup de où vous regardez. Et c'est vrai que moi, je suis allemande. Et je pense que, en fait, d'une certaine manière, Emmanuel Macron n'a pas encore vraiment agi d'une manière européenne ou n'a pas encore choisi sa politique parce que il doit être en attente des élections en Allemagne qui se passeront le 24 septembre. Donc déjà, à savoir, est-ce qu'il a affaire avec Madame Merkel ou avec Monsieur Schulz. Et je pense que il y a un peu en attente sur les sujets justement de comment gouverner la zone euro. Je suis d'accord avec mon collègue italien que sur la question des réfugiés, c'est certainement pas que Emmanuel Macron s'est montré très européen. Je suis très d'accord. Mais quand on regarde par exemple la politique de sécurité, toutes les initiatives qui ont été lancées pour des avions communs, je suis bien consciente que c'est une espèce de renouveau franco-allemand et que le franco-allemand n'est pas l'Europe. Donc je suis d'accord sur cette critique. Il n'empêche que le moteur franco-allemand, c'est le grand classique pour démarrer la machine européenne. Donc moi, dans le doute, je donnerais Emmanuel Macron encore, disons, jusqu'en octobre peut-être, afin de définir un peu son projet européen. Et j'espère, enfin c'est ce qu'on discute en Allemagne, que tous les projets sur la table, disons par exemple, les récits de Thomas Piketty, traité sur la démocratisation de l'Europe, tout cela, donc ministre des Finances, capacité budgétaire et tout, qu'on va voir des plans et des projets français. Enfin, c'est ça ce qu'on attend.
Un regard peut-être un peu plus indulgent alors de votre part pour le moment, Thomaïs Papayohannou, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait des attentes particulières par rapport à la politique européenne d'Emmanuel Macron ou quelque part l'attente et la vision des Grecs est avant tout conditionnée par la situation de la particulière du pays, la situation de crise économique.
Et non, ils n'ont pas d'attente de Monsieur Macron parce que justement ils étaient très déçus par le précédent président François Hollande qui a promis beaucoup de choses et finalement et on a vu les résultats. Et par contre Emmanuel Macron visitera la Grèce le 7 et le 8 septembre. Donc, dans moins d'un mois. Et donc là, on l'attend pour voir quelle est sa position sur certains sujets très précis. Mais non, ce n'est pas la philosophie. Et en général, je suis étonnée, énormément étonnée, qu'on fait table rase de ce qui s'est passé en Europe les 8 dernières années, voire 9 dernières années. Le drame, le traumatisme qu'a vécu toute l'Europe sur la crise extrêmement profonde, existentielle de l'Union européenne, qui a abouti non seulement à mise en colonie de quelques pays, la Grèce en première, vraiment une colonie, hein. La Grèce n'a plus de souveraineté, hein. C'est la Troïka, donc la Commission européenne, la BCE, la Banque centrale européenne, et aussi le FMI qui gouverne un pays. Ça, c'est certain. Il y a eu d'autres pays aussi qui ont perdu leur souveraineté pas dans un bon moment. Autre chose, c'est que on a eu une existentielle de Brexit. On a un séisme que tout le monde fait semblant comme si de rien n'était, mais c'est la Grande-Bretagne qui sort de l'Union européenne. Et encore, c'est juste le premier pas. Donc, on ne peut pas attendre de M. Macron une politique avant donc les élections européennes comme on vient de le le dire, l'élection, pardon, allemande avant le 24 septembre. Et surtout, on est devant Brexit, on a devant toujours une crise économique très profonde, la crise de l'euro. Vous vous souvenez, on parlait de Grexit, ça veut dire qu'un pays sortirait de l'eurozone, une monnaie irréversible. Vous vous souvenez, le fondement, le traité qui dit qu'il n'y aura pas une sortie. Et pourtant, il y avait des pays qui avaient promu la sortie, dont certains, beaucoup du nord de l'Europe. Donc on trouve une Union européenne et une eurozone en état déplorable. Donc comment peut-on dire qu'est-ce qui fait Macron? Or, qu'est-ce qu'ils font tout le monde? On constate qu'actuellement, c'est une Europe allemande. Et ce n'est pas négatif ou autre chose, mais c'est l'Allemagne qui gouverne avec des postes stratégiques. Et attendez, en 2019, on aura un nouveau président de la Banque Centrale Européenne, et les Allemands ne veulent surtout pas que ce soit quelqu'un du Sud. Hein.
Alors Emmanuel Macron, justement, semble pour le moment donner beaucoup d'importance à la relation avec l'Allemagne. Est-ce que du côté allemand, Ulrike Guéraud, il y a, on va dire, un enthousiasme réciproque, même si, comme vous l'avez dit, l'Allemagne est plutôt en attente en termes de politique, puisque en attente des élections, mais quand même déjà, voilà, est-ce que cette vision très franco-allemand centrée, on va dire, de l'Europe est au moins réciproque outre-Rhin?
Déjà, je voudrais me solidariser avec ma collègue grecque, parce que c'est exactement comme c'est. Hein. La zone euro, elle a été gouvernée par l'Allemagne. C'était un choc pour le Sud. Tous les pays du Sud sont dans un état plus ou moins déplorable. En Espagne, la moitié de la jeunesse a déjà quitté pour l'Amérique latine. Enfin, je vois tout ça. Je pense que qu'est-ce que je peux apporter en tant qu'Allemande? Parce que c'est d'ailleurs pour moi pas très facile d'être l'Allemande dans le jeu, l'Allemande dans la conversation. Vous voyez ce que je veux dire, parce que je
fais. Alors, on ne vous fait pas porter la responsabilité de la politique d'Angela Merkel dans l'émission.
Exactement, mais vous voyez, c'est très délicat, parce que je vois tout à fait l'analyse, je vois tout à fait la critique, et elle est justifiée. Mon problème à moi, je suis une Allemande qui partage ce point de vue, et je suis minorisée dans mon propre pays. C'est ça mon problème. Alors, il y a des Allemands qui se battent, mais vraiment qui se battent pour toutes ces thèses qui ont été évoquées sur la dominance allemande, l'hégémonie allemande dans la zone euro. On a suivi quand même les arguments de Mélenchon, les arguments de la gauche française, genre l'autre Europe n'est pas possible, ainsi de suite, et tout ça c'est très légitime. Mon problème à moi, c'est quand je me bats en tant qu'Allemande dans mon pays, alors l'Allemagne, pour ces arguments, en fait je suis marginalisée, et c'est là le problème. C'est-à-dire que je voulais si je pouvais vous faire comprendre qu'en fait on est dans des discours très, très, très différents. C'est-à-dire qu'ici, en Allemagne, malheureusement, la plupart des gens croient que nous, on est bien. Si tout le monde jouait comme nous, l'eurozone n'aurait pas de problème, que les autres sont les coupables et nous, on a beaucoup aidé. Je trouve que ça se déconstruise très vite. Je pense qu'on est très d'accord avec ma collègue grecque, mais le problème, c'est comment courir des élections en Allemagne avec ces arguments. Et c'est exactement ce problème. Si maintenant, vous faites un argument pro-européen, c'est-à-dire qu'il faudrait capacité des finances, ministre des finances, il faudrait une démocratie allemande, une démocratie européenne, une Europe sociale, ainsi de suite. L'argument en Allemagne qui est avancé, c'est toujours, mais ça nous coûtera. Et donc, il y a vraiment une constellation qui met les arguments du Sud à l'envers ou au contraire avec les arguments du Nord. Et je trouve que c'est ça, c'est pour ça que des émissions comme ça, c'est très, très, très important, afin de comprendre qu'on joue vraiment Foucault dirait, dans des knowledge order, dans des ordres discours, mais très, très, très différents. Et si la collègue Grèce venait en Allemagne pour faire une discussion du grand public, elle aura des toutes autres arguments avancés que celles avancées en Grèce ou en Italie. Et c'est ça le problème européen, qu'on n'a même pas une analyse qu'on partage sur les origines de la zone euro, les problèmes de la gouvernance, parce que l'argument que nous, on est les mauvais, d'une certaine manière, nous, les Allemands, en Allemagne, c'est un argument qui ne court pas.
Et alors, je précise, je viens de le dire, mais effectivement, que votre présence à tous les quatre n'a surtout pas pour but d'être le reflet des décisions des gouvernants actuels, mais plutôt effectivement des débats publics qui a lieu dans chaque pays, dans toute leur complexité et toute leur diversité. Toujours peut-être voilà, néanmoins, sur cette question du couple franco-allemand et de la manière dont le président français a choisi de le réaffirmer comme un axe fort de sa politique européenne. Stéphane de Vries, vous, comment et de quel œil vous voyez ça?
Tout d'abord, je pense que le couple franco-allemand est d'abord une obsession française. Pour l'Allemagne, il y a d'autres pays en Europe que la France. Heureusement, l'Allemagne sait qu'il y a d'autres membres. La France, parfois j'ai l'impression que la France pense qu'il y a que deux membres dans l'Union européenne et les autres ne comptent pas. L'Allemagne, par exemple, est très attachée aussi à l'Est, par exemple. Il y a beaucoup de contacts. La France n'est même pas le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne, c'est les Pays-Bas. Donc, c'est beaucoup plus nuancé pour les Allemands. Donc, les Français sont vraiment obsédés par les Allemands. On a vu ça dans l'histoire. À chaque fois quand les Allemands venaient, on déroulait le tapis rouge. Je pense que c'est une erreur stratégique de la part d'Emmanuel Macron de ne se concentrer que sur l'Allemagne. Il est vrai, bien sûr, que si l'Allemagne et la France sont d'accord sur un sujet, l'Europe avance plus vite. Mais ça ne veut pas dire que les autres pays ne comptent pas. Bien au contraire, l'Allemagne sait très bien qu'il faut avoir à bord tous les autres pays parce que sinon l'Europe ne fonctionne pas. Pour la France, c'est un peu différent. Donc, il faut qu'il arrête d'être obsédé par Angela Merkel qu'il commence à se comporter comme un vrai Européen et pas comme un Français, comme on a vu déjà avec tous les autres présidents précédents, très franco-français. L'Europe est très loin et on parle qu'avec le voisin.
Alors Alberto Toscano, pour revenir sur un cas précis, hein, celui de la nationalisation annoncée par le gouvernement français des chantiers navals de STX, après avoir donné une garantie, enfin une parole en tout cas à l'Italie que l'Italie pourrait contrôler à plus de 50%, on a entendu le discours, voilà, c'est le retour de l'intérêt national au-dessus de la coopération. Est-ce que vous inscrivez dans cette analyse et Macron finalement est plus nationaliste une fois le dossier arrivé qu'européiste?
Non, je pense que on peut pas dire aujourd'hui que Macron ne se comporte pas comme un vrai Européen. Il faut lui donner la possibilité de montrer quelle est sa politique européenne. Alors effectivement, certains actes laissent penser, laissent imaginer une stratégie qui vise, comme je disais tout à l'heure, à une relation privilégiée seulement avec l'Allemagne. Mais d'autres donne un peu d'espoir. À la fin de ce mois, il y aura une réunion entre les responsables de France, Allemagne, Italie et Espagne, c'est-à-dire les quatre principaux pays de la zone euro. Donc, l'idée de Macron à ce sujet est une idée qui laisse de l'espoir. Par contre, certains cas spécifiques, comme le dossier dont vous venez de parler, celui des chantiers navals de Saint-Nazaire, laissent un goût amer à l'opinion publique italienne. Pour deux raisons. La première est qu'un contrat avait été trouvé, un accord était parfaitement opérationnel, sauf la possibilité de la part de l'État français, de la République française, pardon, de nationaliser cette entreprise. Et sous le gouvernement précédent et avec François Hollande à l'Élysée, il y avait eu un accord pour transférer le quota qui était dans le domaine de la Corée du Sud, de l'entreprise de la Corée du Sud, à des entreprises italiennes, notamment une entreprise contrôlée par l'État italien, qui est Fincantieri, qui est agit dans le même secteur que le chantier de Saint-Nazaire. Et cet accord a été remis en discussion par Emmanuel Macron et par le gouvernement actuel, et en particulier par le ministre des Finances Bruno Le Maire, qui a demandé à l'Italie de renoncer à cet accord au nom d'un désir français de rééquilibrage. Mais l'accord avait été trouvé, et dans ce cas spécifique, la parole de la France n'a pas été tenue par la France elle-même. La parole du président François Hollande n'a pas été tenue par son successeur. C'est un acte grave. Et la raison de cet acte, la raison qui a été évoquée par certains est encore plus grave. Parce que ce qu'on a dit est on ne peut pas faire confiance aux Italiens. Mais où on vit? On a fait confiance aux Coréens pour qu'ils gardent le contrôle de Saint-Nazaire et on refuse de faire confiance aux Italiens. On fait plus de confiance à la Corée du Sud qu'à l'Italie. On est là. Et dernière chose, pour empêcher que cet accord entre en vigueur, la France nationalise cette entreprise. C'est-à-dire, le libéral, l'européiste Emmanuel Macron empêche un accord européen d'entrer en vigueur et il arrive au point de nationaliser. Jean-Luc Mélenchon aurait fait ça.
Alors, on entend votre stupéfaction, effectivement, Stéphane De Vries.
Oui, je partage le désarroi de Alberto Toscano. Mais en fait, pour moi, ça me surprend pas, parce que pour moi, un président français, ne peut pas être européen, parce qu'il est, il pense d'abord à la France, aux intérêts de la France. On a vu ça avec tous les présidents. Emmanuel Macron s'inscrit dans la même lignée. Pour moi, un Français, il pense toujours d'abord à la France, et donc par définition, il ne peut jamais être un Européen. Parce que si on pense à l'Europe, si on est un vrai Européen, on pense d'abord à l'Europe. Et donc ça veut dire que parfois, c'est peut-être pas dans l'intérêt de la France, mais quand on est Européen, on pense Européen et pas Français. Et donc pour moi, c'est la preuve, cette nationalisation. Peut-être c'est trop tôt hein, pour juger, parce que ça fait que 3 mois qu'il est là, mais moi, ça m'a vraiment choqué. Et pour moi, c'est la preuve, encore une fois, qu'un politique français ne pourra jamais être un politique européen.
Vous voulez dire que ce conflit avec l'Italie n'est pas spécifique, mais peut-être qu'il préfigure
d'autres
relations éternelle, avec chacun des pays
nation,
européens.
La France pourra jamais dire adieu à l'État-nation. Or, si on veut avancer en Europe, il faut dire adieu à l'État-nation. Donc, un homme politique français ou une femme politique française courageux ou courageuse devrait dire nous allons supprimer la France, nous allons entrer en Europe. Mais pour un Français, ça serait inconcevable. Donc pour moi, un Français ne peut jamais être un Européen.
Car pour les autres, ils vont supprimer leur État.
Pardon.
Tous les États, bien sûr, mais bon, ça, on n'en est pas là. Mais donc un Français est plus attaché à l'État-nation parce qu'elle pense qu'elle a inventé. On parle beaucoup de la souveraineté. C'est le cas aussi avec la nationalisation du chantier naval. C'est hypocrite. Et en plus, c'est tellement du XXe siècle, ça n'a plus sa place au XXIe siècle. Donc, pour moi, Emmanuel Macron, ce n'est pas un nationaliste, c'est juste un Français.
Ulrike Guéraud et ensuite Thomas Papayoannou. Ulrike Guéraud.
Oui, je voulais reprendre ça parce que d'abord, je partage l'analyse parfaitement. Hein, c'est-à-dire que même nous, dans un débat comme ça, on est les Grecs, les Italiens, les Allemands, les Néerlandais, et ainsi de suite. Donc, alors que Stefan Zweig disait déjà dans les années 1930, l'Europe, c'est la déconstruction du national. Donc, on a déjà un marché, on a une monnaie et maintenant, il faut une démocratie. Et donc, du coup, il faudrait peut-être aussi se souvenir que le dit État national et n'est pas souverain. Le souverain, c'est nous. Les citoyens sont les souverains. Hein. Donc, réorganiser la démocratie européenne autour d'un European citizenship, donc en fait une citoyenneté européenne où on ne peut que vouloir une chose, on est égal devant la loi. Et on ne l'est pas parce qu'on est toujours morcelé selon des législatures nationales. Donc, je pense que c'est vrai qu'il y a là le problème d'Europe aujourd'hui. C'est parce qu'on fait toujours un refugium en fait dans la dite souveraineté nationale. Donc je suis d'accord qu'il faut repenser l'Europe, je suis d'accord qu'il faut maintenant concevoir une démocratie européenne qui permettrait justement de ne plus jouer les Italiens, la compagnie française contre l'italienne, contre la Grèce, ainsi de suite, mais où on se base sur une conception d'une citoyenneté européenne qui soit fournie par justement être égal devant la loi. Et on ne l'est pas dans l'Union européenne aujourd'hui parce qu'on est toujours marcelé, compartimentalisé dans des législation nationale. Et d'ailleurs, ceci s'applique pour la taxation, pour le social, pour nos accès aux droits sociaux, ainsi de suite. Et du coup, on fait de la nationalité un facteur de concurrence. Et c'est exactement ça ce qui nous a flanqué dans la catastrophe, dans la crise euro. C'est-à-dire que quand Stéphane De Vries dit que Macron il joue un intérêt national pour la France, ben, je dirais que les Allemands jouent un intérêt national pour leur industrie exportatrice. Mais ce qu'on n'arrive pas à faire dans les l'état actuel de l'Union européenne, c'est justement d'avoir un système qui, en tant que citoyens européens, nous met à égal d'un à l'autre, au-delà de la nationalité, devant la taxation, devant les droits sociaux, ainsi de suite. Et je pense que c'est là où il faut commencer, et c'est là où je regarde de très près, enfin moi, les Allemands, certaines regardent quand même de très près certains projets, on parle des projets européens de Macron, mais je reviens au petit livre de Thomas Piketty, traité pour la démocratisation de l'Europe, c'est quand même un livre assez fantastique, où il déconstruit un peu, où il songe à une autre représentation délégation parlementaire pour la zone euro, où ils songent à une autre base de légitimité, une autre base de souveraineté, et justement au-delà de la, du facteur national. Et je pense que c'est là le chemin qu'il faut aller, parce que sinon, même nous, dans un débat comme ça, on retombe dans les intérêts italiens vis-à-vis les intérêts français, ainsi de suite. Alors qu'il faut réorganiser les intérêts des citoyens européens sur la base d'un droit égal.
Alors, Thomas Papaioanou, est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il y a une crispation bien française, on va dire, exacerbée autour de l'intérêt national, comme semblait le dire Stéphane De Vries, ou plutôt que finalement, c'est un défaut, un travers dans lequel tombe l'ensemble des membres de l'Union européenne?
Moi, je pense qu'on est dans une hypocrisie, on baigne dans une hypocrisie absolument effarante. Et vraiment, et chacun, et c'est pour soi actuellement, et depuis un bon moment. Et regardez ce qui s'est passé avec les Dieselgate, c'est-à-dire, on a choper en flagrant délit l'industrie automobile allemande d'avoir fraudé. Or, aux États-Unis, elles vont payer une amende extraordinaire, 1 milliard. En Europe, elles ne vont pas payer grand-chose parce que l'État allemand veille très bien aux intérêts pour
l'État
que la
français,
Commission...
Hein, c'est Ségolène Royal qui a très très protégé l'industrie française.
Et allemande. Et allemande ouais. Aussi, parce qu'ils ont des intérêts à chacun de son côté. Pour ça, je parle, c'est vraiment déjà pour dire que beaucoup de pays en Europe pratiquent l'évasion fiscale à gogo. Et même, ils soutiennent et ils promeuvent l'évasion fiscale et éviter la fiscalité, dont Pays-Bas, qui est un champion d'évasion fiscale pour les autres pays.
Hein,
optimisation, excellente terme. Optimisation fiscale par le Luxembourg, dont l'ex-premier ministre est actuellement président de la Commission. La Grande-Bretagne, la plus grande hypocrite, parce que c'est l'optimisation fiscale à l'état magistral, au monde entier, avec ses îles Caïmanes et ses îles Vierges. Donc, dire que chaque pays ne doit pas protéger son industrie dans ce contexte-là, c'est de se suicider. D'ailleurs, le premier à se poser des questions et depuis très longtemps, c'est M. Schäuble qui est le ministre des Finances allemand qui se pose beaucoup de problèmes sur les dérèglements de la mondialisation. Cette mondialisation sauvage qu'on a subie et qu'on subit encore et ne permet pas de penser européen. Je vais vous dire une chose, les déficits des certains pays sont les surplus d'autres pays. L'Allemagne actuellement est numéro 1 au monde en surplus de sa balance commerciale au monde. Et même la Chine ne peut pas concurrencer actuellement l'Allemagne. Quand on dit à l'Allemagne vous avez trop de surplus, il va falloir vraiment lâcher une prise, il faut consommer un peu plus en interne, ils disent ah ben nous on a beaucoup travaillé pour avoir notre surplus. Or en économie, les déficits des uns fait le bonheur des autres, le surplus. Donc, à un moment donné, il faut arrêter cette hypocrisie et qu'on se décide. Qu'est-ce qu'on veut? Monsieur Schäuble veut une eurozone, une zone de l'euro très restreinte. C'est-à-dire, lui, il considère que l'euro n'est pas l'euro, c'est un maquillage de son Deutschmark. Donc, il défend sa politique monétaire et sa politique industrielle. Et à partir de là, il va falloir discuter réalité, réelle politique.
Alberto Toscano, vous vouliez réagir?
Oui. Oui, je pense que ce discours est très intéressant, ce débat est très intéressant, mais il faut revenir et toujours souligner l'importance des dossiers spécifiques. Je crois que nous, on veut l'Europe. Je crois que l'Europe, malgré ses problèmes, a donné des démonstrations extraordinaires de cohérence avec l'intérêt de ce peuple, malgré les difficultés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que le pays qui a voulu sortir de l'Europe, la Grande-Bretagne, se trouve en difficulté et qu'aucun autre pays a imaginé de sortir de l'Europe. Donc, revenons à l'Europe et à un dossier qui nous permet de la construire jour après jour. S'il y a certaines critiques à faire, je critiquais l'attitude française vis-à-vis des chantiers navals de Saint-Nazaire et de l'Italie, pas en tant qu'Italien, en tant que citoyens européens qui remarquent une contradiction de la politique française. Et je crois que la France et l'Allemagne et tous les autres pays, mais l'Europe est née autour de la France et l'Allemagne, ces deux pays sont fondamentaux pour l'avenir de l'Europe. Et il faut quand même dire que ce pays se trompe quand il imagine être le seul à décider en Europe. Exemple, le dossier sur l'industrie militaire. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont parlé de développement commun franco-allemand dans futurs avions militaires. Mais pourquoi ne pas associer dès le début les autres pays européens qui disposent d'une grande industrie aéronautique à ce projet. Pourquoi à chaque fois toujours souligner l'importance de ce dialogue à deux et ne pas trouver sur le dossier concret celui de l'industrie militaire, celui de la politique étrangère, celui de la politique vis-à-vis de l'immigration, celui du chantier naval de Saint-Nazaire et d'autres encore, l'énergie et d'autres, toujours amorcer un dialogue réel entre pays européens pour créer des politiques communes.
France Culture, du grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon.
Macron a-t-il vraiment un projet pour l'Europe? On en discute jusqu'à 19h avec Ulrike Guéraud, Stéphane De Vries, Thomas Papayounaou et Alberto Toscano qu'on vient de couper. Pardon, toutes nos excuses. C'est très intéressant ce que vous venez justement d'évoquer et j'allais rebondir là-dessus, Alberto Toscano. La question de l'Europe de la défense, ça a été et c'est encore une des promesses du président Macron pour relancer l'Union européenne. Stéphane De Vries, vous y croyez? Alors, je sais que vous n'avez pas beaucoup d'espoir ni d'illusion, vous nous l'avez dit, mais qu'est-ce que vous pensez tout de même de cette idée d'utiliser le moteur de la défense européenne qui jusque-là était quand même assez négligé pour relancer l'Union européenne?
De manière générale, je suis pour plus d'intégration européenne, donc je suis aussi pour une défense européenne. Mais le problème, c'est que les pays, encore une fois, ont chacun une autre vision de qu'est-ce que c'est la défense. La France pense d'abord à son industrie d'armement, sous la pression de Dassault ou d'autres familles très puissantes qui sont très influentes en France. L'armée en France est presque sacrée. Il y a l'obsession avec la bombe atomique que la France ne voudrait jamais lâcher. Ensuite, il y a l'Allemagne qui a, de par son histoire, une autre vision de qu'est-ce que c'est la défense, surtout quand il s'agit des opérations internationales. Ensuite, il y a par exemple le Benelux ou la Scandinavie qui sont toujours été beaucoup plus proches des États-Unis, beaucoup plus atlantistes. Et puis, il y a les États de l'Est qui sont effrayés par la menace de la Russie. Donc, chacun a une autre vision sur qu'est-ce que c'est la défense. Et la France pense d'abord à son industrie. Et donc, c'est logique qu'elle pousse une intégration sur la défense parce qu'elle pense pouvoir vendre encore plus de rafales ou de bombes, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est une motivation économique. Tandis que l'Allemagne a une motivation beaucoup plus stratégique, géopolitique, peut-être même philosophique. Et les États du Nord ont une approche beaucoup plus pragmatique. Donc, si vous demandez à un Européen, quelconque Européen, quelle est votre définition de la défense, vous aurez 27, disons pour il y a maintenant 27 membres, 27 définitions différentes. Et c'est exactement le cas pour l'économie, pour l'éducation, pour l'environnement. Vous aurez à chaque fois 27 ou peut-être 500 millions de définitions différentes, parce qu'on est 500 millions. Donc il s'agit de trouver une sorte de compromis entre nous tous, et c'est ça le véritable projet européen. Donc c'est être en débat, rester en débat avec tout le monde, tout le temps, et pas se concentrer sur juste un pays, comme l'Allemagne avec la France, et se rendre compte que la solution française n'est peut-être pas la bonne solution. Peut-être il y a des meilleures solutions, ou d'autres solutions, et quand on arrive là, ça va être le début d'une véritable construction européenne. Mais tant qu'on réfléchisse ou tant qu'on a le réflexe nationaliste, on n'arrivera jamais.
Stéphane De Vries, peut-être à défaut d'avoir une politique de défense commune, y a-t-il déjà des choses à mettre en commun, ne serait-ce qu'en termes de recherche et développement ou de construction? L'Allemagne et la France ont justement annoncé, c'était le 13 juillet, la construction d'un avion de combat commun. Votre regard sur cette question, Ulrike Guéraud?
Oui, déjà je voudrais réagir à deux choses. Je suis tout à fait d'accord avec Stéphane Fries que le franco-allemand c'est fini, enfin c'est pas fini en termes de fini, mais ça ne peut qu'être une moteur au mieux, mais en fait il faut déjà englober, il faut faire avec les Italiens, les Espagnols et tout, parce que il faut déconstruire le national. Je pense aussi dans la manière dont on parle, c'est pas que la France et l'Allemagne, c'est qui la France, c'est qui l'Allemagne. Je pense que ce serait beaucoup mieux si on se plaçait sur citoyenneté européenne, les citoyens citoyens européennes veulent. On veut un avion de transport ou pas, mais certaines veulent pas, parce qu'après, c'est une décision politique. Veut-on la défense, veut-on la militarisation, veut-on la surveillance, ainsi de suite. Donc je pense que déjà d'un débat tel qu'on l'amène là maintenant, il faudrait arrêter comme s'il y avait cette France et cette Allemagne, et donc le tandem franco-allemand, je voudrais bien déconstruire. Effectivement, c'est une décision qui ultimativement doit être prise au niveau européen, et ça doit être une décision politique, oui ou non, on veut quelle sécurité pour l'Europe. Mais deux, réagir au problème du surplus de la collègue Grèce. Je suis tout à fait d'accord, le surplus allemand, c'était un très grand problème. D'ailleurs, le problème était sur le titre du Economist l'autre jour, The German Problem. Et c'est vrai que tant que l'Allemagne fait du social dumping et fait du dumping salarial, et qu'on n'a pas, en fait, une convergence dans les revenus, ni une convergence fiscale, ni une convergence des droits sociaux, on ne va pas arriver, parce que du coup, le prix du surplus allemand, ça devrait être l'union fiscale. C'est-à-dire que si déjà l'Allemagne prend, en fait, et sort la zone euro comme une citron, ce serait la moindre des choses que l'Allemagne, par exemple, serait d'accord de s'engager dans une assurance chômage européenne. Au moins, ce serait le deal, d'une certaine manière. Quitte à dire ce que j'ai dit, il faut vraiment commencer à déterminer les lignes, comment concevoir une démocratie européenne où on est, en tant que citoyens, tous égaux devant la loi. Parce que si on le serait, on pourrait plus dire qu'il y a surplus allemand, on aurait compris que l'Allemagne peut gagner ce surplus uniquement parce que elle exporte dans la zone euro, parce que du coup, elle détruit des industries des autres pays. Et donc, je pense que c'est vers là qu'il faut penser, et vers là il faut penser, il faut vraiment commencer avec des lignes très claires. L'avenir du projet européen, c'est de concevoir qu'après le IBAN, qui maintenant, on a tous un numéro de IBAN, on a tous l'euro dans la poche, le prochain sursaut serait, il faudrait un numéro de taxation pour tous les citoyens européens. Voilà.
Mais Ulrike Guéraud, vous nous décrivez là une Europe très, très fédérale, où on peut imaginer qu'un Parlement européen aurait davantage de pouvoir. Qui aujourd'hui, parmi les dirigeants européens, porte encore cette idée-là, cet idéal-là peut-être ?
C'est pour ça que j'attends vraiment ce que Macron fait, parce que tant que je suis informée, peut-être je suis faussement informée, mais il a quand même repris dans son programme part de ce que justement Antoine Vaucher et tous ces sociologues français ont vient de publier au mois de mai, là encore une fois, traité pour la démocratisation de l'Europe, où il propose une parlementarisation de la zone euro, une autre légitimité, en fait une assemblée des députés qui soit tirée par des assemblées nationales, parce que du coup on reproche au Parlement européen qu'il n'est pas possédeur du droit d'initiative. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à une nouvelle input légitimité, parce qu'avec le système actuel qu'on a, on peut justement ne pas prendre les décisions dont on a tous besoin. On a besoin d'une taxation unique, on a besoin d'une assurance de chômage européen, mais le Parlement européen tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas décider là-dessus, et donc tout est relégué au Conseil européen, et le Conseil européen prend toujours des choix nationaux. Donc je pense qu'il est temps maintenant de repenser le système. Tant que j'ai compris, mais peut-être c'est faux, Macron s'est engagé à le faire. Donc moi j'attends effectivement qu'est-ce qui va se passer le 25 septembre, qui sera en Allemagne, qui gouvernera en Allemagne, et avec quelle Allemagne Macron peut justement avancer son projet Europe 2030. Moi j'ai entendu qu'il y a un projet Europe 2030 et que parlementarisation, refonte de la légitimité de la zone euro font partie de ce projet, et je suis tout à fait pour, parce que si on veut une démocratie européenne, on commence là.
Alberto Toscano.
Je pense que Ulrike a mille fois raison. Et le vrai problème aujourd'hui, l'un des vrais problèmes est quand même celui de rendre la zone euro plus démocratique. Aujourd'hui, il n'y a pas une Europe, il y a deux Europes. Il y a l'Europe de la zone euro qui est forcément pour des choix, à cause de choix qui ont déjà été faits et qui sont systématiquement renouvelés tous les ans. Quand on fait des budgets et on prête ces budgets on soumet ces budgets au contrôle de la Commission européenne. Et la zone euro est dans une dynamique fédérale. L'autre Europe, l'autre cercle plus extérieur de l'Europe, est dans une dynamique différente, où forcément le poids national est plus fort. Or, cette zone euro qui est dans une dynamique fédérale a comme moteur seulement l'économie, seulement la finance. C'est plus possible. Il faut introduire dans la zone euro des mécanismes de contrôle démocratique.
Et précisément, Alberto Toscano, ces propositions faites par le président, alors on n'a pas encore une concrétisation,
là,
mais
ces propositions sont bonnes.
D'avoir une gouvernance intégrée de la zone euro, un ministre des Finances de la zone euro également, pour vous, ça va dans le bon sens et ça va dans un
sens
fédéral. Donc Emmanuel Macron n'est pas si nationaliste que ça ?
Dans ce cas spécifique, on doit espérer que Emmanuel Macron soit cohérent avec les annonces qu'il lui-même a faites.
Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, Thomas Papayohannou.
Le fil de pensée de Emmanuel Macron, si je comprends bien, c'est de protéger une Europe qui protège. Et une Europe qui protège les frontières, une Europe qui protège les citoyens, une Europe qui protège de ces flux sauvages, migratoires, qu'on ne peut plus gérer, etc., etc. Ce qu'il disait dans une interview le 21 juin. Donc, le fait qu'on dit protéger l'Europe, c'est vraiment très français et très rassurant. Il y avait deux différents penser en Europe. C'est le concret, l'économie, d'un côté, et qui est représentée par l'Europe du Nord, mais la France a toujours apporté cette touche sociale en Europe. Donc, protéger, déjà dire que l'Europe doit protéger de tous les côtés, ça rassure quelque part une population européenne qui est aux abois actuellement. Elle n'y croit plus. Et parce que
vous pensez que la France, et au-delà de ses partenaires, peut jouer ce rôle-là de protection, d'avoir une Europe qui protège plus ?
Pour assurer.
Stéphane De Vries, toujours dans le programme du candidat Macron, on pouvait lire « Objectif, rétablir la confiance des Français envers l'Europe ». En réalité, l'enjeu, ce serait peut-être rétablir la confiance des Européens envers la France.
Un peu les deux. En effet, quand on regarde la France, elle n'a pas une très bonne réputation. Et depuis l'élection d'Emmanuel Macron, dans les autres pays européens, il y a une véritable attente. On se dit « Ah, enfin, la France va changer ». Espérons que la France changera. Moi, je suis un peu dubitatif. Ça fait très longtemps que j'habite ici et je ne vois pas vraiment de changement. Ça fait 20 ans que j'entends le mot « Oui, maintenant, le pays va changer ». Mais tous les pays en Europe savent que la France est extrêmement importante pour l'Union européenne et il faut que ce pays aille bien. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on espère toujours qu'Emmanuel Macron portera ce changement, portera cette amélioration. À voir. Ça fait 3 mois, il reste encore 4 ans et demi et quelques.
Ce qui fait déjà pas mal. Eh bien, merci infiniment à tous les quatre. Thomas Papayohannou, Stéphane De Vries, Ulrike Guérot et Alberto Toscano d'avoir participé à cette discussion ce soir. Merci aux équipes de France Bleu Provence pour avoir assuré la liaison avec le duplex. Les références, les ouvrages, les liens, les infos, mais aussi la réécoute de cette émission et de toutes les autres, c'est comme toujours sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Du Grain Moudre d'été, une émission préparée par Philippine Lebray, Juliette Montilly, Pierre Testard, Cédric Fuentes et Iselte Sicard. Réalisation Romain Masson, prise de son Jacques Azubert, droit d'auteur Victor Buton.